Il parlait aux poissons, leur chantait des chansons. Il contait aux oiseaux les bienfaits du Très-Haut. Il louait le soleil et toutes ses merveilles.
Paix et tout bien, mes auditeurs. Bienvenue à vous tous pour notre rendez-vous, notre série sur Frère François, d'après l'ouvrage de Julien Green, dans l'audio. Et la production est de Saint-Léger Productions. Avant de retrouver notre épisode, nous nous étions, je vous le rappelle, arrêtés au moment où François, en fils de l'Église, va demander l'approbation de sa règle, l'autorisation au pape de vivre donc en fraternité. Julien Green nous a bien expliqué tout le contexte du Moyen-Âge, les dérives, les dangers, les hérésies, et cette attitude est un exemple pour nous de ce qu'est véritablement l'obéissance filiale, l'obéissance aussi à l'Église. Donc François va se rendre auprès du pape. Ça ne va pas être simple, mais Dame Providence est là, qui va bien faire les choses. Bonne écoute.
Puissance des rêves. Les historiens sceptiques ont beau jeu pour récuser ce qu'on appelle l'élément onirique des biographies traditionnelles. Car, demandent-ils, où est la preuve que tout cela n'a pas été inventé après coup? Ce serait singulièrement méconnaître la psychologie de l'homme du Moyen-Âge qui y agissait si souvent par prémonition et voyait dans le rêve un moyen choisi par Dieu pour communiquer avec lui et parfois lui signifier sa volonté. Il en allait de même des visions. Intellectuel sans doute, mais se présentant avec une précision telle que l'homme avait la certitude de voir une image extérieure à lui-même. À ses yeux, l'illusion n'était pas possible, et l'action suivait, tout raisonnement écarté. La psychanalyse n'existait pas pour déranger ce système d'idées forces venues d'un autre monde. Pour l'humanité de ces temps lointains, le sommeil offrait une source d'énergie spirituelle, et même de révélations d'ordre mystique. Avons-nous tous beaucoup changé sur ce point? Les explorations scientifiques dans les profondeurs du cerveau de l'homme endormi nous livrent des constatations intéressantes sur les intermittences du rêve. On peut priver un homme de ses rêves en le réveillant à l'instant où le songe commence, mais au bout d'un certain nombre de nuits sans rêve, il mourra. Nous avons besoin de nos rêves pour vivre. Cette vérité magnifique est une découverte de notre temps. Mais elle laisse entier le secret de cette vie étrange où l'âme se meut près d'un tiers de notre existence terrestre. Ayant accompli leur rôle, les rêves s'effacent. Ceux qui restent gardent parfois une apparence de réalité hallucinatoire. L'homme du Moyen-Âge n'en faisait pas mystère et se laissait diriger par eux lorsqu'il les croyait venus d'en haut. Mais pour nous, cette imagerie un peu fantomatique est comme une série de souvenirs d'un voyage fait par un irresponsable, et nous récusons le témoignage d'un voyageur que ne guide pas la déesse raison. Il n'en reste pas moins vrai que cette fantasmagorie vitale prend sa place dans notre destinée. Le rêveur des XIIe et XIIIe siècles, plus près que nous d'un monde instinctif, savait peut-être mieux que nous le croyons faire la part du charnel et du spirituel dans ses confrontations nocturnes de lui-même avec lui-même. Des exemples que nous tenons encore pour historiques lui étaient fournis avec surabondance par des textes de l'Écriture. Le songe de Jacob, qui vit des anges montant et descendant sur une échelle qui atteignait le ciel. Celui de Pharaon, qui rêva de vaches grasses, suivies de vaches maigres, et que Joseph élucida. Ces songes révélateurs font irruption dans la nuit de l'histoire, et cela jusque dans les temps modernes. Il est intéressant de savoir que la veille de sa mort tragique, le président Lincoln fit à une réunion de ses ministres le récit du rêve qu'il avait eu la nuit précédente, se voyant dans une barque qui l'emportait en haute mer, sans rames, sans gouvernail, sur un océan sans limite. « Je n'ai aucun secours, je vais à la dérive, à la dérive, à la dérive. » Et il conclut: « Mais messieurs, Cela n'a rien à voir avec notre travail. Voyons les affaires du jour. 5 heures plus tard, il mourait au théâtre du coup de revolver d'un fanatique. Entre Innocent III et François d'Assise, l'échange se passe de vision à vision, l'une répondant à l'autre, comme des bateaux qui se croisent la nuit en pleine mer. Le mendiant et le pape. Lorsque François revient le voir, le pape a encore en tête les remarques de ses cardinaux, et devant ceux-ci, toujours présents, reprend leur point de vue et se fait en quelque sorte l'avocat du diable. Comment vivrez-vous? De quoi allez-vous vivre sans argent? Et avec quel argent? Le bon sens pratique parle ici sa langue de tous les jours. À ces questions simples, François répond simplement « Seigneur, je m'en remets à mon Seigneur Jésus-Christ. S'il s'est engagé à nous donner la vie éternelle, il ne nous frustrera certainement pas au moment voulu de l'indispensable à notre vie matérielle sur cette terre. Mais le pape ne voulait pas céder, même si, au fond du cœur, il se sentait remué par les paroles de cet homme manifestement inculte. « L'homme, par sa nature, lui dit-il, est instable et ne persévère jamais bien longtemps dans les mêmes voies. Va, demande au Seigneur de t'inspirer des vues plus sensées pour ton avenir, et quand tu seras sûr de tes désirs, tu reviendras me voir et alors j'approuverai ta règle. » François se retira. Dans le silence de sa prière, Dieu lui inspira une parabole. Aussitôt, il revint voir Innocent III. C'était le troisième face-à-face du pape rouge et or comme le soleil couchant et du petit homme couleur de terre. En regardant ce doux obstiné, le pape se souvint d'un songe qu'il avait visité peu de temps auparavant et rempli d'inquiétude. Il se voyait dormant dans son lit, sa tiare sur la tête, et la basilique du Latran penchant dangereusement de côté, quand par bonheur un petit moine, l'air d'un mendiant, s'appuyant contre elle de son épaule, la soutenait et la gardait de crouler. Le mendiant, il le reconnaissait. C'était celui-là même qui lui parlait. Et comment le pape ne l'eût-il pas écouté, racontant une histoire allégorique alors que lui-même avait encore en mémoire un songe? Un roi richissime avait épousé dans le désert une femme très belle et très pauvre. Elle lui donna de nombreux enfants. Mais elle demeura au désert. Quand ses fils furent grands, ils se plaignirent de ne rien avoir. Elle leur dit « Vous êtes enfants du roi. Allez à sa cour et il vous donnera ce qu'il vous faut. » Alors ils gagnèrent le palais du roi. Celui-ci s'étonna de leur beauté. « D'où venez-vous ? » leur demanda-t-il. « Qui êtes-vous ? » « Les fils de la pauvre femme qui vit dans le désert. Ne craignez rien, vous êtes mes fils. Ceux qui ne me sont rien sont nourris à ma table. À plus forte raison, je m'occuperai de vous. » Et François ajouta « Pas de danger que meurent de faim les fils et héritiers du roi éternel, car le roi de la parabole était le Christ qui pourvoirait à tout, et c'était lui, François, qui les avait engendrés. » Ce discours acheva de persuader le pape, mais non tout à fait autant qu'il eût fallu pour lui arracher une approbation formelle. Il fit à François des recommandations affectueuses et l'invita à revenir le voir quand le nombre de ses fidèles se serait multiplié. Alors, et alors seulement, il pourrait lui accorder davantage. Il lui permit cependant de prêcher. Ici, 47 ans plus tard, Saint Bonaventure, à des fins d'hagiographie idéale, nous décrit la scène de façon un peu différente. Il nous montre le pape, émerveillé par le discours de François, acquiescé sans réserve. Non seulement il lui accorda tout ce qu'il demandait, mais il promit par la suite de lui donner encore plus. Il approuva sa règle, lui donna mission de prêcher, et fit faire de petites tonsures à tous les laïcs compagnons de François, pour leur permettre de prêcher la parole de Dieu sans être inquiétés. Détail qui n'est pas sans intérêt, la curie ajouta que les frères devaient élire un chef, et cela allait faire un ordre de plus dans l'Église, écartant ainsi le spectre d'une hérésie comme celle des bonhommes de Lyon. D'approbation écrite de la règle, point. Après une prosternation aux pieds du Seigneur Pape, François prit son congé et, avec ses frères, sortit aussitôt de la ville par la Via Salaria. Que pensait-il en quittant Rome? Avec toute son innocence retrouvée, il n'en restait pas moins italien, et sa finesse naturelle l'instruisait du prix des bonnes paroles. Mais comment discuter avec un personnage coiffé d'une tiare, lui qui n'était rien, lui qui ne savait rien? Quelle figure pouvait-il faire devant ces hommes pleins d'un savoir étourdissant? Le pape lui avait donné son assentiment verbal. La parole du pape lui suffisait. Cependant, s'ils disparaissaient l'un ou l'autre, verba volant. Quand le poverello entendit ses frères exulter et chanter victoire, ne dut-il pas secrètement souffrir? Il pressentit non pas l'échec, mais bien pis, la réussite illusoire. Les cardinaux avaient trop grogné. On ne voulait pas de sa règle toute simple, et lui, d'autre part, ne voulait pas fonder un ordre. C'est ici que les documents se taisent, crainte de ternir la belle image. François, à la cour de Rome, était comme un enfant, mais il avait une intelligence surnaturelle du sens caché des événements, et il dut flairer les hésitations dans ses compliments et ses bénédictions qui n'engageaient à rien de précis. L'approbation, remportée de haute lutte, n'était qu'une permission de principe. C'était à Jésus seul qu'il devait s'en remettre. Et le Christ lui rendit doucement la joie que le monde n'a jamais pu donner. Dans une vision nocturne, il retrouva tout son courage. Il vit un arbre gigantesque à la cime duquel il se trouva enlevé, et l'empoignant des deux mains, il réussit sans effort à la courber comme il voulait jusqu'au sol. Or, cet arbre était le pape.
Rendez-vous la semaine prochaine, amis auditeurs, pour poursuivre notre série sur Saint François d'Assise, frère François, ce frère universel. Nous le retrouverons dans notre série Pax et Bonum avec les éditions Saint-Léger. Merci pour ce rendez-vous que j'espère vous êtes nombreux à ne pas manquer. Et nous attendons, bien sûr, de voir comment cette fraternité va grandir en nombre, mais également en sainteté.
Sois le petit frère.